Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quels que soient vos problèmes, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Gaëlle Piton, sophrologue, coach, auteur, journaliste, animatrice TV, formatrice, conférencière, pour parler de son parcours inspirant, puisque comme vous venez de le constater, elle incarne la bonne slasheuse, passant d'un projet à un autre, on dirait qu'elle est portée par la vie, et je trouve cela toujours inspirant, toujours une nouvelle idée, un nouveau projet à créer ou pour y participer, bref, c'est assez impressionnant. On parle des rêves d'enfance et comment ils peuvent nous guider pour nos métiers futurs, révéler nos traits de personnalité et ce à quoi on aspire finalement, des blessures de notre passé, de nos croyances qui nous empêchent d'avancer dans la vie, et ça je peux vous dire qu'on en a plein, de nos pensées automatiques, de l'importance de travailler avec notre désagréable, parce que oui, comme je le dis toujours, ce n'est pas une habitude que l'on a dans notre société, et pourtant, il faut arriver à devenir confortable dans l'inconfortable. Être OK avec ce qui est, ne plus être en résistance pour être davantage en paix. Gaëlle nous donne des pistes et des outils sympas pour faire des pauses parmi les dizaines de milliers de pensées que l'on a dans la journée, malheureusement pas toutes positives. Comment nous ancrer davantage, comment se connaître un peu plus, comment sortir de ce que l'on appelle le biais cognitif de négativité, et comment être un peu plus positif finalement. Bah oui, c'est pas mal de voir le verre à moitié plein. Bref, je vous embrasse, prenez soin de vous, bonne écoute. Bonjour Gaëlle, bienvenue dans Horizon Podcast, merci d'être là.
Merci, bonjour Léna.
Alors tu as fait de belles études, Cagne, Hippocagne, tu étais partie pour passer l'agrègue il me semble et enseigner, mais tu en as décidé autrement, tu n'as finalement même pas passé ta thèse. Comment ça s'est manifesté en toi ce changement de parcours, cette écoute intuitive finalement d'un autre possible, parce que ça n'a pas dû être facile?
Oui, alors bon, ça remonte à loin, mais en tout cas si on parle du moment précis où je me rends compte que ça ne va pas être mon chemin, ben, je pense que c'est mon corps hein, tout simplement qui lui ne ment jamais, hein, le corps il a des signes et c'est nous qui ne savons pas les écouter. Je sens que je suis pas à ma place, soit que c'est pas OK pour moi, je me sens pas heureuse tout simplement, et je me dis que c'est sans doute parce que quelque chose n'est pas aligné, que je suis pas sur la bonne voie, en tout cas la voie pour moi. Donc c'est le corps, je dirais, ouais, si on parle de ce moment précis.
Et c'était une sorte d'angoisse en fait de suivre un chemin qui n'était pas pour toi?
Je ne sais pas si ça se manifestait comme une angoisse. En tout cas, il y avait quelque chose à l'intérieur qui savait que ce n'était pas la bonne direction. C'est-à-dire que oui, il y avait peut-être des tensions intérieures, un manque d'élan, tu vois. Quand tu es vraiment aligné avec ton chemin, il y a quelque chose qui te donne de l'énergie, tu vois. Tu sens que tu as des bonnes émotions, des good vibes, comme on dit. Enfin, pas des bonnes émotions,
c'est fluide.
Mais voilà, c'est fluide et tu ne te poses pas trop de questions. Là, c'était dur, c'était pénible, je n'avais pas l'élan à ça. Alors, c'était pas insupportable non plus, mais quand même, je sentais que quelque chose n'allait pas à l'intérieur.
Ça me rappelle, parce que moi aussi, j'ai fait Hippocagne. Moi, c'est Hippocagne option cinéma, mais à Nancy, toi, t'es de l'Est d'ailleurs, donc c'était le lycée Poincaré de souvenirs. Et je suis restée une semaine, je me suis dit, non, c'est pas pour moi, pas du tout pour moi. Vous êtes l'élite de la France.
Ouais.
Moi, j'avais pas aimé cette phrase, j'aimais pas du tout cette mentalité. Donc, je comprends, parce que moi aussi, j'ai fait taillot, j'ai bossé à McDo pendant quelques mois, c'était pas le même truc. Mais après, effectivement, je me suis réalignée, mais ça peut être très long. Hein. Je sais que toi, j'ai l'impression, et on va en discuter, que finalement, ça s'est enchaîné, mais t'as toujours été plus ou moins alignée à des choses. Moi, j'ai mis au moins 10 ans à me sentir beaucoup plus alignée, à trouver. Mais c'est parce que j'avais pas travaillé sur moi, c'est aussi un autre point. Bref, ne tergiversons pas. Alors c'est assez marrant hein, parce que je trouve que t'as été un peu portée par la vie. On le voit dans ton livre où tu décris ton parcours entre l'accompagnement des artistes chorégraphiques. Tu es sophrologue, coach, journaliste, en passant par la réalisation d'un documentaire sur la danse aux Philippines, par ta propre émission Danser sa vie. Tu es également auteur. Bref, c'est vraiment inspirant. C'est un peu comme si les projets venaient à toi, non? T'as un peu un aimant, je trouve, parce qu'il y a des gens, tu sais, qui vont faire toujours la même chose toute leur vie, etc. Toi, ça s'enchaîne. Poup, 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 poup.
Bah écoute, je suis contente que tu dis ça parce que parfois la réaction c'est elle fait beaucoup de choses alors que pour moi c'est pas un souci, tu vois. J'ai très conscience qu'il y a un cœur de tout ça et que Qu'est-ce que tu veux que ce soit journaliste ou accompagnante ou sophrologue, pour moi, il y a un cœur qui est le mouvement de vie, remettre les gens dans leur mouvement de vie, au sens large du terme. Donc, je n'ai pas trop de problèmes de cohérence, mais parfois, je sais que te mettre dans une case, l'extérieur a besoin. Je ne sais pas si ça s'enchaîne, en tout cas, je suis très connectée à mon élan, à mon désir, ça, de plus en plus. Et par contre, ça se travaille, hein, tu parlais du enfin, du travail personnel, c'est vraiment pour moi une clé et ça ne s'arrête jamais. Tu as toujours des couches à travailler. Et je travaille beaucoup quand même aussi. Hein, ça, j'aime bien le préciser parce que ça n'arrive pas comme ça. Ça ne tombe pas du ciel non plus. Alors, j'ai certaines chances. Toi, je touche du bois, une bonne santé. Je suis née dans un pays où il n'y a pas la guerre. En fait, tu vois, je veux dire, j'ai cette chance-là. Mais par contre, c'est énormément de travail. Que ce soit un livre, que ce soit un film, c'est avant tout un travail d'artisan. Et donc, j'ai une grande,
Bien
grande force
sûr.
de travail, ça, c'est sûr. Et je rends beaucoup de services. Alors ça, c'est pour moi, c'est très, très important dans mon parcours, c'est-à-dire que je suis pas du tout avare en coup de main, en conseil, en écoute, et ça m'a toujours été rendu, d'une façon ou d'une autre. Donc, je milite pour ça, pour soyez authentique et ouvrez le cœur à fond, parce que ça circule, après.
De donner en fait sans rien attendre en retour, c'est ça que tu dis.
Exactement, ouais.
Complètement. Je pense qu'on ne mesure pas à quel point on peut changer la vie de quelqu'un ou une journée de quelqu'un. Par exemple, dans le métro, tu lui tiens à la porte ou tu souris à quelqu'un. Bah moi, je pense que pour moi, c'est des soldats de l'amour, quoi. C'est essayer d'un petit peu de d'améliorer le monde à travers des gestes tout simples, mais pourtant qui sont symboliques. Et si tout le monde fait ça, et en plus de ça, ça donne envie, c'est inspirant. Donc tu fais la même chose si on t'a rendu service. Enfin, je trouve que c'est très beau. C'est un cercle
Ouais, c'est
vertueux.
contagieux, quoi. Je veux dire, si effectivement, moi j'adore, j'aime beaucoup modéliser aussi. Tu vois, j'ai des gens que j'admire où je me dis, waouh, quelle énergie. Bah, je regarde comment ils font. Tu vois, je me dis pas, ah là là, mince, je suis jalouse, pas du tout. Alors, ça, c'est un sentiment que je connais pas, qui m'est étranger. En tout cas, l'aspiration vers l'autre, ça oui. Et je me dis, bah, peut-être que moi, je peux modestement inspirer d'autres gens qui inspireront d'autres gens et qu'ensemble, plutôt que de râler, je préfère agir, moi. Ça a toujours été mon.
Mais du coup, t'as toujours eu confiance en toi ou est-ce que tu avais le syndrome par exemple de l'imposteur ou tu enfin j'ai l'impression que tu osais au final, donc il y avait une certaine confiance.
Alors là, pas vraiment,
Non?
non. Et je ne peux pas te dire même si et maintenant qu'elle est encore en place, vraiment. Par contre, j'ai une grande conscience en ma responsabilité. Et ça m'a toujours aidée. C'est-à-dire que je me dis, il y a toujours des choses qui dépendent de moi. Donc il y a toujours des choses que je vais pouvoir changer. Je suis un peu du genre, tu vois, à me donner le challenge et à flipper après, moi. Mais non, j'ai pas, non, non, vraiment, et un peu comme, tu vois, les artistes qui sont sur des plateaux, ce sont des grands timides et parfois des gens qui n'ont pas confiance en eux. C'est pas parce que tu manifestes comme ça quelque chose qui fait croire que,
Bien
non, je
sûr.
dirais pas que ma confiance en moi est top top, hein, mais elle se travaille, elle est au travail.
Ouais, parce que tu en es consciente, justement.
Je crois.
Alors parlons un petit peu des rêves d'enfants. Je trouvais ça assez intéressant parce que tu parles de nos rêves d'enfants, comme quoi il peut y avoir toujours quelque chose à en tirer. Ça peut également nous faire prendre conscience de ce qu'on a laissé derrière soi en y renonçant. Et je trouve ça marrant parce que du coup, je me suis interrogée sur mes rêves d'enfants. Et moi, je voulais être militaire pendant très longtemps. Très bizarre, voilà. Mais je voulais être militaire et je voulais à un moment être. C'était mon frère et ma sœur jumelle qui disaient ça, titanicologue. Je voulais aller
Titanicologue.
retrouver, tu sais,
Ouais.
la curiosité de trouver les petits trucs, etc. Donc je m'interrogeais par rapport à ça, je trouve ça assez rigolo. Mais en tout cas, tu dis que voilà, y a quelque chose qu'on a pu laisser derrière soi, alors pourquoi?
Ouais, alors t'as la titanicologue, elle fait des interviews, elle aime bien chercher, elle est curieuse, tu vois. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que ça ne se manifeste pas forcément comme on l'aurait voulu, mais il y a
Bien sûr.
toujours des choses intéressantes. Parce que si tu veux, les enfants n'ont pas encore ces filtres, ces croyances, ça vient de plus en plus tôt, malheureusement, mais il y a quelque chose d'assez spontané qui est là, qui est disponible. C'est après que les choses se corsent avec les injonctions sociales, parentales. Qu'elle soit consciente ou pas d'ailleurs, mais et je me dis qu'il y a toujours quelque chose d'assez précieux et ça se vérifie vraiment. Alors déjà c'est mon parcours, mais ça se vérifie chez les gens que j'accompagne et c'est un exercice qu'on fait très souvent de se dire quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui était important pour vous, qu'est-ce que vous vouliez faire et qui était facile, qui était fluide. Et on a souvent des réponses intéressantes, notamment tu vois dans le cadre de reconversion ou de gens qui veulent changer de vie. C'est très très précieux, donc j'invite vraiment tes auditeurs à dire qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais gamin et à tirer les caractéristiques de ça, évidemment. Titanologue, ben voilà, titanicologue, c'est ça? Titanicologue,
Titanicologue.
évidemment, c'est pas comme ça que tu manifestes, mais je suis persuadée qu'il y a des liens avec ce que tu fais maintenant.
Oui, puis le côté militaire, c'est un peu se battre pour le coup, pour la paix. En fait, pour moi, c'est un petit peu ça, c'est être le soldat de l'amour, c'est ce que je te disais il y a
Ouais,
quelque
t'as
temps, tu
employé
vois.
ça comme métaphore,
Ouais.
effectivement.
Donc, Alors, tu parles du divorce de tes parents, assez difficile évidemment à surmonter. On a tous des blessures en nous, j'ai eu cette blessure-là aussi. Comment elles influencent notre vie d'adulte? Sachant que Lise Bourbeau, elle nous dit qu'il y a cinq blessures dans son livre, Les cinq blessures qui nous empêchent d'être soi-même. Et si tu peux nous les rappeler d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas et qui ne connaissent pas Lise Bourbeau.
Ouais, alors il y a pas mal de gens effectivement qui ont travaillé sur ces thématiques, blessures d'humiliation, d'injustice, d'abandon. Il va falloir que je les retrouve parce que tu vois, ça se trouve,
Si, si, abandon, ouais. Ouais,
La
ouais.
blessure de rejet, il m'en manque une, je crois.
Humiliation, je crois.
Ouais, voilà, bon, peut-être. En tout cas, il y a l'injustice. Non, je crois que c'est l'injustice que j'ai pas dit.
Oui, il y a l'injustice, ouais.
Alors, effectivement, c'est hyper intéressant ce travail. Après, elle associe des schémas corporels aux blessures, hein, Lise Bourbeau. J'invite toujours les lecteurs à être un peu nuancés par rapport à ça. C'est pas aussi automatique, mais elle le dit elle-même d'ailleurs. Ben, moi, je crois que le divorce, c'est une grande blessure. Et comment elle a influencé ma vie? Et ben, elle a influencé ma vie dans les relations, par exemple, affectives. Tu vois, ça a été, j'ai mis longtemps à construire des relations de qualité. C'est un vrai travail d'équilibre. Parce que quand tu as une blessure, bah, d'abandon, de rejet, hein, ça dépend comment on vit un divorce, ou ça peut être d'ailleurs les cinq en même temps, ou trois d'entre elles, bah, c'est le prisme qui te fait voir ce qui t'arrive et qui. La blessure, elle aime se nourrir, hein, elle est assez gourmande, donc elle va essayer de répéter des
Ouais.
choses qui vont bien lui valider que tu vois, tu te fais encore abandonner. Donc si tu as la blessure d'abandon, c'est compliqué de construire avec un partenaire qui ne t'abandonne pas si tu n'as pas travaillé dessus. Et je crois qu'elle se travaille tout le temps. Il n'y a pas un moment où on peut dire ça y est, fini jusqu'au bout de ma vie, je crois pas. Ça se réactive après peut-être dans les contextes professionnels. Tu vois, j'ai bossé longtemps avec des chorégraphes. J'ai bossé avec des chorégraphes très chouettes. J'ai aussi bossé avec des chorégraphes qui l'étaient moins parce qu'il y avait un rapport extrêmement toxique en fait, hein, mais qui peut être celui d'un boss, d'une entreprise. Moi, c'est juste que c'était mon parcours. Et maintenant, je comprends avec le recul que peut-être ben, c'était mal positionné aussi parce que j'avais ce vécu-là.
Ouais,
Donc,
complètement.
c'est une de mes blessures. Voilà, on en a tous, comme tu dis, mais on n'est pas non plus, c'est pas une fatalité, quoi. On n'est pas destiné à les porter
Ouais.
toute notre vie, mais ça demande un petit travail.
Ouais, et puis effectivement, on en a souvent plusieurs. Et ça crée des croyances en nous. Elles peuvent être utiles pour notre bonheur, mais c'est bien souvent le contraire. Quelles sont les étapes pour travailler sur ces croyances? J'imagine qu'évidemment, il faut d'abord s'en rendre compte. Alors, comment on peut les repérer et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire pour commencer?
Oui, alors tu parles des croyances limitantes, hein, comme tu le dis très justement, les croyances qui nous portent, laissons-les nous porter. Elles nous porteront peut-être pendant un moment dans notre vie et puis après, elles mériteront d'être reconsidérées. Une croyance limitante, c'est vraiment un programme, en fait, qui fait que quand tu dois passer à l'action, tu es un peu comme le cheval qui n'arrive pas à sauter l'obstacle. Il y a quelque chose qui freine. Elles se traduisent comment? Ce sont des pensées automatiques d'abord qui sont donc plein de petits pop-up qui arrivent et tu n'as rien demandé. Souvent des pop-up de jugement, hein, c'est-à-dire de toute façon tu n'arriveras jamais, c'est pas pour toi, tu n'es pas faite pour ça, qui font que du coup ça bloque l'action. Donc effectivement, tu le dis très justement, les repérer c'est un premier travail. Donc repérer ces petites pensées automatiques qui vont faire des grands groupes. Hein. Donc ça c'est vraiment notre système de schéma cognitif, on appelle ça. Et ensuite, alors, la nature a horreur du vide. Donc, même si tu as bien conscience que ton programme à toi, par exemple, je suis nulle en maths, tu vois, alors que tu veux faire mathématicienne, c'est un peu embêtant d'avoir ce programme-là. Même si tu as conscience que non, c'est pas OK pour moi de penser comme ça, il y a un moment, ça doit passer par l'expérience. Tu dois faire l'expérience d'autre chose, donc d'une croyance corollaire qui la remplace pour changer. Et ça, c'est vraiment, vraiment au cœur de mon travail parce que j'ai l'impression des fois que je fais descendre dans le corps des choses qui ont été très bien comprise mentalement, mais qui dans l'expérience ne change rien. Et si ça change rien, c'est qu'il y a un problème quand même. Donc c'est vraiment d'expérimenter. Alors, tu vois, encore hier, j'avais une personne qui me disait, je vais jamais au bout des choses. Sa croyance était que de toute façon, elle allait jamais au bout des choses. Et ben, on a essayé de trouver une toute petite action très simple qu'elle allait mener de A à Z. Et donc elle s'est expérimentée comme terminant quelque chose. Sans doute qu'elle en terminait plein, mais elle avait en plus voilà, ce prisme qui disait « Je n'en termine jamais aucune !» Donc, tu vois, c'est vraiment d'expérimenter quelque chose d'autre, une autre réalité qui va te permettre de changer.
Donc ici, par exemple, si tu veux être mathématicienne, tu vas commencer à faire des exercices de mathématiques. Et si tu les réussis, du coup, ça va un petit peu t'avancer dedans. Enfin, j'essaie
Alors non, si tu te dis,
d'aller jusqu'au bout de l'exemple.
je suis nulle en maths, déjà, ça veut dire quoi être nulle en maths, tu vois? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre qui aide? Je fais de mon mieux, j'ai des compétences en mathématiques, je sais résoudre certains exercices, pour les autres, je peux apprendre. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui va assouplir et qui dans ton corps va faire, ah oui, là, je me sens un peu plus motivé pour y aller, je me sens un peu plus compétent pour y aller. Et ensuite, t'expérimentes. C'est plutôt
Ou
ça.
par exemple, si tu prends conscience que, je sais pas, tu as une pensée où tu te juges, par exemple, etc., limitante, quoi. Est-ce que donc tu la remplaces aussi volontairement? Est-ce que ça peut aider ça?
Oui, alors
Par quelque
déjà, tu
chose de plus
l'accueilles.
expansif?
Déjà, tu l'accueilles.
Ouais.
Première chose, avant de transformer, c'est bienvenue. Bienvenue à tout ce que je suis de manière inconditionnelle, ce que j'arrive à faire, ce que j'arrive moins à faire, la façon dont je pense, etc. Et ensuite, regarde ce que ça te fait dans le corps quand tu te dis oh, je suis nulle, j'arriverai jamais. Toi, donc souvent, ça fait des crispations. Alors, c'est pas aussi, ça dépend, hein, c'est pas toutes les mêmes zones du corps pour tout le monde, c'est pas les mêmes
Totalement.
symptômes, mais bon, t'observes. Et tu essaies de trouver quelque chose qui, quand tu le dis, tu as bien conscience que tu n'es pas en train de te raconter des salades. Hein. Il y a quelque chose dans ton corps qui sait je fais de mon mieux, tu vois, par exemple, je fais de mon mieux. J'ai des qualités, j'ai des savoir-faire, des savoir-être, etc. Et il y a quelque chose qui va sans doute s'apaiser un petit peu. Voilà, déjà, et à chaque fois que tu le repères, d'essayer de remplacer comme un petit mantra, tu vois, d'essayer de changer les. Voilà, ça c'est déjà un premier pas, effectivement.
Ouais. Lors d'un autre podcast, tu dis, on a beaucoup à apprendre à travailler avec notre désagréable. Et j'adore cette phrase et je suis vraiment d'accord. Je dis souvent d'ailleurs qu'il faut apprendre à être confortable dans l'inconfortable. Dans notre société, on apprend plutôt à supprimer ce qui nous paraît difficile, alors que ce sont des formidables messages à écouter et à travailler, de formidables opportunités en fait. Qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, on peut même être inconfortable dans l'inconfortable hein, aussi. On n'est pas obligé d'être confortable dans l'inconfortable. Ça, c'est une autre nuance. C'est-à-dire que le bien-être à tout prix, c'est pas voilà, c'est un autre sujet, mais c'est pas le. Pour moi, c'est pas le chemin en tout cas qui de ce que je vois de l'être humain en face de moi. Moi, c'est un ouvrage qui m'a beaucoup fait réfléchir à ça dans le bouddhisme tibétain. C'est nourrir ses démons. C'est une pratique en fait du bouddhisme tibétain qui consiste en fait à regarder ton désagréable, comme tu l'as dit. En fait, quand c'est désagréable, qu'est-ce qu'on fait? Soit on fuit, on cherche absolument la porte de sortie, soit on se fige. Donc on fuit, ça peut être je me divertis, je regarde un Netflix, je bois un coup, c'est super d'aller boire un coup et de regarder Netflix, j'ai rien contre, mais bon, ça ne fait pas faire face au problème. Soit on se fige comme le lapin dans les phares de la voiture, quoi. Et on n'agit pas non plus. Dire bienvenue, viens, assieds-toi à son dragon, assieds-toi à côté de moi, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as envie de me dire là? Ça permet déjà de d'essouffler un peu les choses. Et là, on peut commencer à travailler. C'est comme si tu avais un ami, si tu le mets à côté de toi et que vous pouvez travailler ensemble, main dans la main. Vous allez pouvoir transformer les choses. Si tu le rejettes et que tu lui claques la porte au nez, je ne suis pas certaine que les relations vont être hyper chouettes. Donc, c'est un bienvenu. Alors, c'est aussi une pratique, hein, parce que dire bienvenue à un petit désagrément, pourquoi pas? Quand vraiment la vie te met à mal, c'est
Ouais.
très, très difficile. Quand c'est le chaos total, bienvenue. Donc, c'est pour ça que c'est bien de s'y entraîner au maximum,
Ouais, je
quoi.
suis d'accord.
Déjà par un petit mantra, bienvenue, bienvenue. Les choses ne sont pas telles que je voulais. Bah oui, bienvenue à ça. Bienvenue à qui je suis, bienvenue à la situation. Ça aide à. J'aime bien l'image du surfeur, tu vois, ça aide à prendre la vague plutôt que la prendre sur soi. Tu la suis dans son mouvement, en
Ouais.
fait. Et.
Oui, ça retire la résistance en fait. Je trouve ça, c'est bien, c'est hyper important. Ça t'évite de partir effectivement dans tes mécanismes automatiques inconscients, de déni, de suppression, etc.
Oui, c'est alors là, c'est le
Ouais.
soldat qui met les armes, voilà, à terre, quoi. C'est, il n'y a pas de lutte, il n'y a pas de combat. En fait,
Ouais,
c'est ça l'idée.
ouais. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose de très méconnu dans notre société. Ce bienvenu, ce OK, c'est là. Eh bien, ça peut rester, c'est pas grave, c'est OK. OK avec ce qui est en
Bien
fait.
sûr, bah, dans une
Pas de
société
résistance.
d'injonction où il faut être toujours plus ceci, plus cela, pas ceci, pas cela, c'est un vrai effort,
Bon
hein.
courage!
Alors que c'est
Oh
tellement
my god!
beau, même pour les hommes, hein, tu vois, accueillir sa vulnérabilité, enfin pour les hommes et les femmes, mais je suis toujours assez touchée quand je reçois des hommes au cabinet parce que c'est plus rare. Voilà, de déposer ça et de dire on n'a pas de combat, il n'y a pas de guerrier là.
Ouais.
Donc, et ça transforme énormément de choses. Moi, j'ai vraiment vu une émotion, elle est faite pour circuler, hein. Emotion, c'est le mouvement. Hein, encore le mouvement, désolé, mais c'est vraiment mon dada.
Complètement.
Et quand tu transformes ça, il y a quelque chose de cette énergie que tu récupères pour pouvoir faire des choses essentielles pour toi.
Ah, bon, ça avait coupé, mais je sais que tu as continué de parler apparemment.
Ouais, j'ai continué de parler.
Bah, c'est bien, je réécouterai. Mais je suis assez d'accord et c'est vrai que je trouve que pour moi, la vulnérabilité, je la vois comme une force parce que justement, personne ne se montre vulnérable, il faut toujours se montrer fort. Moi, au contraire, j'aime bien quand on vient avec son authenticité, donc à savoir le bon et le moins bien en fait, parce que bah, c'est ça qui fait que déjà la connexion humaine, elle peut être plus belle, plus profonde en fait. Je trouve ça vraiment plus intéressant et du coup, ça peut créer plus de liens,
Bien sûr.
notamment, tu
Puis
vois.
c'est notre nature humaine, donc voilà, c'est se respecter et respecter l'autre en face aussi, en
Ouais,
commençant par
complètement.
soi, parce que on peut accueillir de l'autre que ce qu'on accueille aussi chez nous.
Exactement. Alors, comment travailler sur ce qui est difficile? Est-ce que tu as quelques pistes à donner à nos auditeurs?
Alors,
Donc, on a parlé un petit peu finalement de bienvenue, hein, à ces sensations, à tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, nos petits auditeurs?
Ce qu'on peut faire après avoir dit bienvenue, c'est apprendre à transformer, à changer un peu ce qui dépend de nous dans cette situation difficile. C'est-à-dire parfois, la vie nous met à mal, c'est le chaos, mais même dans la tempête, tu sais, j'aime bien cette image du cœur de la tempête. Ça tourne, et puis à l'intérieur, il y a quelque chose qui peut rester tranquille, solide, sécure. Et cette sécurité qu'on peut sentir à l'intérieur de nous, elle est très très puissante et elle est très précieuse. Et ça, elle s'apprend. Alors, moi, en tant que sophrologue, forcément, je vais te donner des outils du corps, de la respiration. Mais ça, c'est bien de l'entraîner comme une barque en eau calme, pas au moment où c'est la tempête. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui me disent, Madame Piton, j'adore respirer, respiration abdominale, mais là, j'ai essayé en pleine angoisse, ça marche pas. Alors, ça ne marche pas, j'aime pas trop le terme, mais c'est l'idée, en tout cas, ça fonctionne pas parce que c'est pas entraîné. L'idée, c'est pas magique, poudre de perlimpinpin, quoi. Donc, c'est vraiment ce retour à soi, à cette tranquillité, à cet endroit, alors presque en descendre dans notre corps en fait, et qui permet peut-être de faire un petit pas de côté, un peu de recul par rapport à ce qui nous arrive pour ne pas nous laisser dans la tourmente. Même quand on accompagne quelqu'un aussi, tu vois, on peut vite être dans la tourmente de l'autre. Donc ramener comme ça à sa sécurité, son attention à soi, ça peut être un premier pas.
Tu veux dire s'ancrer notamment par les
Ouais,
sens?
s'ancrer par les sens, la respiration. Moi, je suis partisane des choses simples d'accès. Ça peut être de remettre les deux pieds au sol dans la journée. C'est intéressant d'observer ça. Tu peux vraiment, peut-être tes auditeurs peuvent le faire, d'observer quand est-ce qu'on a les pieds vraiment au sol. Même si, par exemple, nous deux, là, on est en train de parler, est-ce qu'on a bien nos pieds campés, posés ou pas? Et si on ne sont pas de nous, c'est nous recable à notre, comme une prise, en fait, à notre existence. C'est un petit geste très simple, et plus on le fait, voilà, on attend le bus, on se remet bien les pieds ancrés, voilà, hop, dans son ancrage vers le ciel aussi, tu vois. Ça change l'énergie de notre corps. Et en sophro, on travaille vraiment comme ça, changer l'énergie du corps pour changer la façon dont on va penser les choses, et pas forcément
Ah mais
l'inverse.
complètement. Parce qu'effectivement, si on, par exemple, on reçoit un mail du travail et on est trigger directement, c'est-à-dire que on se sent attaqué, bah si on répond, on va répondre avec cette énergie.
C'est
Alors que
ça.
si on fait ce que tu viens d'expliquer, ou alors qu'on ressent nos émotions dans notre corps, déjà on coupe le mental, ça nous permet d'avoir un peu plus de clarté d'esprit après quelques minutes et de répondre avec plus de respect et une autre énergie.
C'est ça.
C'est ça qui est intéressant.
Parce que
On dit, je
là,
crois qu'on dit en anglais, on dit respond instead of react, un truc comme ça. En français, je sais pas comment le dire, mais ça porte bien son. Je trouve que c'est une bonne explication,
Oui,
pour
parce
son
que
anglais.
ce qui va te guider au moment où tu réponds comme ça, c'est plutôt le pilote automatique, en fait, on dirait comme ça, c'est-à-dire action-réaction, quoi. Tu me piques, je vais te piquer. Alors que du coup, ça permet de pas partir, de pas parler depuis la blessure, de pas parler depuis la peur. Et de parler depuis quelque chose qu'on a tous, qui est une forme de sagesse,
C'est
d'intuition.
ça.
Et ça, tu vois, un exemple très concret. Moi, j'ai beaucoup bossé dans les collèges de Saint-Denis avec des gamins violents. Donc, il y a vraiment des problèmes de bagarre, de grosses, grosses bagarres. On n'est pas dans des petits trucs, de tirage de cheveux. C'était vraiment violent. Et souvent, la violence, c'est quoi? C'est une émotion qui n'a pas été accueillie. C'est-à-dire, ça vient tellement m'envahir, cette colère que je ressens contre toi, que bam, je préfère la décharger en te foutant mon poing dessus, quoi. Il y a d'autres façons de réagir, mais justement en faisant un pas de côté, et c'est ce qu'on faisait vraiment avec ces gamins-là, c'est-à-dire fais un pas de côté, recentre-toi. Est-ce que maintenant tu as encore envie de le taper? Parce qu'après, une fois que tu l'as tapé, tu te sens pas si bien que ça quand même. Ça va te soulager 2 secondes le truc, mais après tu vas culpabiliser. Donc c'est hyper important. Et ça soulagerait énormément de conflits au quotidien, de gens qui se frite à la caisse du supermarché, dans le métro, à la pompe à essence, tu vois. Non, mais c'est au quotidien, on peut travailler ça. Vraiment.
Et c'est ça que tu leur apprenais aux petits, notamment à Saint-Denis?
Ça, entre autres, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire aussi de cette connaissance qu'on a de comment est-ce qu'on fonctionne, et surtout des expérimentations. Je leur disais rarement, crois-moi sur parole, enfin même pas, je t'explique comment on travaille, nous, en sophro ou en psychologie positive. Après, il y a plein d'outils, et tu vois dans la cour comment ça marche pour toi. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Mais tu viens de raconter. Et le fait, c'est encore là l'expérience, la force de l'expérience, quand on expérimente et on se dit, bah oui, effectivement, c'était plus agréable pour moi, donc bah, je vais garder ça alors. Ouais,
Ah,
c'était beaucoup
super.
d'interactions, et ce que j'apprenais aux enseignants aussi, en fait, parce que des fois, l'interaction entre enseignants et élèves, ou entre enseignants et enseignants, elle peut être hyper violente sans que les gens s'en rendent compte. Mais ça, c'est
Ouais,
des mots, c'est la façon dont on s'exprime, la façon dont on se juge, ce qu'on dit de l'autre. On a du taf à faire chacun déjà avec nous et comme ça pour des
ouais.
rapports humains plus apaisés.
Mais ça doit être intéressant, mine de rien, de travailler avec les professeurs et les élèves, pour le coup.
C'est hyper intéressant. Après, c'est pas simple. C'est pas simple de l'intérieur de l'éducation nationale pour plein de raisons. Parce que moi, ça m'a pris 7 ans pour faire travailler tout le monde ensemble. Ça m'a demandé de la patience, qui n'était pas ma qualité première, mais c'est bien, j'ai travaillé. Mais oui, parce que c'est un système. C'est un système. Donc, c'est-à-dire que si toi, tu bouges en tant qu'élève ce système-là, ça va faire bouger tout le reste. Mais c'est valable pour les parents, pour les enseignants. Et que c'est ça qui fait bouger le système école de l'intérieur.
Ah,
Ouais.
super, super projet.
C'était très chouette.
Et c'est vrai que justement, quand tu parles de, bah, d'école et de société, c'est très alpha finalement. On est très dans il faut faire, dans cette énergie hyperactive, alors qu'on n'est pas trop dans cette part qu'on dit oméga, féminine, ressentir, tu sais, d'être dans le présent, en fait, de juste être plutôt que de
Ouais.
faire. Et
Ou
je pense que c'est
ouais.
un peu ça qu'on essaye d'un peu travailler, tu vois, pour changer ce côté alpha en un peu plus oméga, tu vois.
Oui, parce que bah, les indicateurs de résultats, enfin, ce qu'on t'apprend, ce n'est pas là-dessus que tu es évalué, en fait. Alors, de plus en plus, il y a des choses qui bougent quand même. Hein, mais c'est vrai que tu es évalué
Excellent.
sur un devoir qui est réussi ou raté. Alors, et tu vois, par exemple, des pratiques comme la méditation, c'est un vrai changement de paradigme pour des enseignants ou des enfants. Parce qu'il n'y a pas de méditation ratée ou réussie. Il n'y a que des méditations. À quel moment dans la vie tu es dans cette posture de non-jugement, de bienvenue? Et c'est pas qu'un mot en fait, c'est-à-dire que le non-jugement, déjà, c'est quelque chose ce vers quoi on tend parce que c'est difficile, c'est même impossible, mais de l'expérimenter, tu prends conscience qu'effectivement on est tout le temps en train de répondre à une demande, de se faire évaluer, noter, et surtout à l'école en fait. Donc peut-être que les grilles, dans certains pays c'est le cas, les grilles évoluent plus vite que chez nous, et les compétences psychosociales, c'est aussi quelque chose de très important pour la vie future, la vie d'adulte et la vie d'enfant d'ailleurs. Donc
Ouais,
c'est ça qu'on
ouais,
travaille en fait. Et c'est pour ça que pour moi, c'était important de le faire à l'intérieur de l'école et pas comme quelque chose qui
ouais.
viendrait. Et c'est le plus difficile, je crois vraiment. Faut y croire.
Ouais, mais c'est ce qui a aussi beaucoup de potentiel parce
Ouais.
que après, tu changes leur vie d'adulte.
Alors voilà, c'est ça. Le truc, c'est que les indicateurs de résultats, si tu veux, quand tu fais un projet comme ça, il faut des résultats. Alors que nous, c'est pas dans nos pratiques, il n'y a pas cette notion de résultat parce que le résultat, c'était un gamin qui, dans 10 ans, va avoir une révélation parce qu'il aura eu ça et qu'il s'en souvient. D'ailleurs, la plupart des
Complètement.
gamins, quand je leur disais comment tu vas utiliser ce que je t'apprends, à quoi ça va te servir, ils disaient quand je serai parent.
Ah, trop mignon.
Donc, tu vois, je me
Mais
dis,
complètement.
si ça devient des parents plus conscients, bah, on aura tout gagné en fait. Enfin, c'est... Mais effectivement, on ne pourra pas évaluer ça quand ils sont en cinquième, un peu tôt.
Ouais, complètement. Mais justement, c'est un changement de paradigme qui est
Oui,
nécessaire.
c'est ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment, c'est fondamental, quoi.
Ouais. Encore du boulot quand même.
Ouais.
Et justement, hein, ce côté alpha, ça va avec les pensées qui n'arrêtent jamais, les ruminations intempestives, qui souvent sont oppressantes, stressantes, négatives, on connaît bien ça. Est-ce qu'il y a différents types de pensées désagréables et comment on peut ralentir ou changer nos pensées qui tournent en boucle?
Alors déjà, nos pensées seront toujours là. Hyper important. On ne
Ah.
peut pas arrêter. Il n'y a pas de bouton pause, de bouton stop. Nous pensons en permanence entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. Donc, c'est dire s'il y a du grabuge là-haut.
C'est fou, hein? Oh la
Ouais,
vache.
c'est fou. Donc, par contre, ce qui est très important de comprendre, c'est que si on ne peut pas arrêter ses pensées, on peut arrêter le regard qu'on pose dessus, c'est-à-dire faire un pas de côté et ne plus s'y engager. Par exemple, tu vois, là, je peux très bien me dire, attends, je suis avec toi, mais alors attends, après, je vais aller chercher ma fille. Est-ce que j'ai de quoi lui faire manger dans le frigo? Ah, mais attends, demain, si je veux faire les courses, tatata, tu vois, ça peut vite. Et puis, je peux très bien ne plus du tout être avec toi. Physiquement, je suis là, mais... Donc, apprendre à ramener son attention et à ne pas charger ses pensées, à pas partir faire la boule de neige, ça, c'est un premier apprentissage. C'est ce que tu dirais par le terme de ralentir. Alors, on ralentit, en tout cas, on fait un pas de côté par rapport à... Comme si on était au bord de l'eau, tu vois, on regarde les pensées sur l'eau, quoi. On n'est pas dans la rivière en train de suivre le flux.
Les petits poissons qui passent et nous on est sur la barque et hop.
Exactement. Et ça, ce recul, il est salvateur parce qu'en fait, on a énormément de sollicitations au quotidien. Et donc, voir qu'on peut aussi s'y engager ou pas, que ça dépend aussi de nous, ça, c'est vraiment très puissant. Donc, ça décharge quelque part, effectivement, la cocotte minute, quoi. Qui fait que plein
Ouais,
de
bien
gens,
sûr.
bah, le problème du trop penser. Alors, il y a plein de mécanismes. Hein, tu peux avoir des pensées. Alors, soit ça va être des pensées de jugement. Des pensées de jugement sur les autres, de jugement sur toi, penser par anticipation du futur, un futur qui n'est pas encore là mais qu'on anticipe, et généralement, c'est un peu le scénario
C'est pas
catastrophe.
positif.
C'est Hollywood, mais Hollywood cata. Ou alors des pensées
Ouais.
du passé. La nostalgie, c'était mieux avant,
Le
et
regret.
on rumine la bruit qu'on a eue avec un tel, une telle, et on n'aurait pas dû faire ci. Enfin, en fait, on n'est pas dans le moment présent. Plus on revient
Complètement.
dans le présent, ce temps dans lequel il n'y a pas de problème, en fait, plus on se crée comme on vit de la soupape de notre cocotte minute, un petit peu dans la journée. Tu vois, comme ça. Parce que le trop penser, c'est comme si tu veux, ton corps, il ne fait pas la différence, quoi. Une pensée où tu vas ruminer un truc qui t'est arrivé, qui a été très douloureux pour toi, tu vas répercuter à nouveau cette douleur sur ton corps. Donc on se fait beaucoup de mal comme ça. Donc
Ah, mais on peut se rendre
on
malade, hein,
peut se
pour le
rendre
coup.
malade. Il y a des gens qui sont dans. Moi, je pense que la plus grande de nos prisons, c'est la nôtre, hein, c'est-à-dire la prison dans
Bien
laquelle on
sûr.
s'enferme tout seul. Mais
Ah, on est bon là-dedans, on est
la
bon.
bonne nouvelle, c'est que c'est nous qui avons la clé. Donc ça, c'est pas mal
C'est
aussi parce
ça.
que n'y a pas de joli autre que nous. Et c'est vrai que ben, c'est un entraînement. C'est un entraînement déjà observé, à s'entraîner à laisser passer ses pensées, donc en ramenant son attention sur autre chose, la respiration par exemple, l'essence, tu en parlais tout à l'heure, écouter le bruit, le son, toucher. Et c'est accessible et ça ne nécessite pas de le faire des heures et des heures par jour. 3 minutes, c'est déjà énorme. Donc, je dis ça pour
Ouais, ah ouais.
encourager les gens parce que parfois les gens se sentent en échec et c'est dommage parce qu'il n'y a pas d'échec déjà. C'est juste que la durée est trop longue. Si vous voulez faire un quart d'heure de méditation par jour, c'est déjà beaucoup en fait. Commencez par
Ouais.
trois, puis après augmentez.
Et puis surtout, les gens vont nous dire, oui, mais j'ai pas arrêté de penser pendant la méditation. Et c'est pas ça, en fait, la méditation. C'est aussi prendre conscience de ses pensées, en fait. Que tu n'es juste pas tes pensées, mais elles peuvent passer, les pensées. Il n'y a pas de problème. Les gens, ils pensent que la méditation, c'est je ne pense à rien. Des fois, c'est très compliqué. Enfin, moi, je sais, même moi qui médite depuis longtemps, il y a des fois, quand j'ai des périodes difficiles, les pensées, elles reviennent. Mais dans ces cas-là, j'essaye de ne pas m'identifier à ces pensées, de les laisser passer comme un nuage qui passerait dans le ciel, tu vois. Je pense que ça, c'est
Tu as
important.
raison
Hein.
et c'est hyper important. Donc, merci de le souligner. Il y a de grandes idées reçues malgré toute la littérature que nous avons quand même sur le sujet. La croyance de méditer, c'est arrêter de penser, je pense que c'est quasiment dans toutes les consultations que j'ai, dans toutes les initiations que je peux avoir. Donc, c'est important de comprendre et surtout d'expérimenter que ce n'est pas arrêter de penser, c'est faire un pas de côté par rapport à ses pensées. C'est tout à fait différent de se désidentifier,
Complètement.
comme tu le dis. Et ça, bah, ça nous donne une sacrée grande plasticité, une sacrée fluidité, une souplesse par rapport à notre quotidien.
Ah
Donc,
mais je trouve ça
parce que le
assez
but, c'est que ça nous
excellent.
serve dans notre vie quotidienne, hein, c'est pas déconnecté de la pratique.
Non mais c'est super parce que tu entraînes ton cerveau et je sais que moi des fois par exemple quand j'ai des moments un peu plus durs parce que la vie est comme ça, eh ben... Tu vois, je commence automatiquement sans me rendre compte à partir un peu en victime ou en déprime, ah, la vie c'est trop dur, nanana. Et là je fais... Stop, je me rends compte que en fait là je suis en train de partir dans un programme que j'avais, mais en fait je suis assez forte pour me dire mais je n'ai pas besoin de partir dans ce programme, je ne suis pas ce programme, je peux changer en fait si je veux. Et du coup la méditation t'entraîne aussi à ça, cette pleine conscience, cette observation objective, on va dire.
Sans se mettre d'injonction, c'est-à-dire dans ce que tu dis aussi le OK, je vois que je suis partie en cacahuète dans mes anciens fonctionnements, bienvenue à ça, quoi. Bienvenue au fait que parfois je fais ma drama queen, bienvenue au fait que je fais mon petit Calimero, tu vois. C'est OK,
Ouais.
en fait, ce sont des parts de nous.
C'est ça.
Et c'est bien
Ouais.
d'embrasser toute la complexité de qui nous sommes et de nos parts. Nous sommes tout ça. Par contre, c'est laquelle tu vas
Ouais.
envoyer au front. C'est clair que si tu envoies la drama queen à ce moment-là, ça ne va pas t'aider, tu vois. Mais bienvenue, ça c'est important, bienvenue.
Ah ouais, moi je les considère comme des petites parties de mon enfant intérieur en fait à chaque fois. Donc c'est pour ça effectivement faut les ramener enfin avec attention, bienveillance, sans les juger, mais par contre effectivement faut pas qu'elles prennent tout le pouvoir parce qu'elles nous ont servi peut-être à un moment, mais j'imagine que plus maintenant si on veut changer notre vie,
Oui, c'est ça.
tu vois.
Mais en tout cas, tu vois, le meilleur, je pense que le meilleur exercice, c'est de regarder ce qui se manifeste autour de nous. Par exemple, si autour de nous, on a l'impression que tout le monde est en conflit, etc., c'est que quelque part, on porte ça à nous aussi. L'extérieur est un miroir de.
Complètement.
Alors, c'est un peu parfois vertigineux parce que tu te dis, ah purée, il y a du taf là. Il y a des moments où vraiment, tu te dis, là,
Là
il y a vraiment du taf, Gaëlle, faut que tu y ailles là. Pouh! Mais en
Faut
même
se
temps, voilà,
réveiller.
il y a toujours ce va-et-vient. Ou quand les choses sont bloquées, tu sais, ça arrive, je sais pas, t'as pas d'argent qui rentre, tes projets, ça foire, rien ne marche. Reviens à toi et pose-toi la question. C'est ce que je fais en permanence. Et ça m'arrive souvent ces moments-là où oh, tu te dis, alors là, c'est coincé. Alors après, tu peux t'en amuser quand tu connais un peu les lois de l'univers. Là, tu te dis, bon, ok, allez, on charbon, c'est parti.
Pardon, ça me fait éternuer. Merci. Mais oui, et d'ailleurs, je repense à un. Il me semble qu'il y a un acronyme que tu utilises que je trouve pas mal, et si tu peux l'expliquer à nos auditeurs, c'est le fameux stop.
Ouais, moi j'aime bien parce que c'est assez pédagogique, quoi. C'est le stop, c'est quand tu veux t'arrêter dans la journée, c'est faire un stop. Donc c'est s'arrêter de ce qu'on est en train de faire. Donc là j'arrêterai de parler, j'arrête ou t'arrêtes d'écrire sur ton ordi, t'arrêtes voilà ce que tu es en train de faire. Le T, c'est prendre le temps, quoi. C'est vraiment poser la question sur le temps. O, c'est observer ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en moi, tu vois? Et rester dans la présence. Et voilà. Faire un stop, c'est vraiment ça. Alors, il y a des petits tips. Je sais que tu aimes bien donner des tips à tes auditeurs. Moi, il y a un truc que j'adore, c'est la cloche de pleine conscience, la Mindfulness Bell. C'est un petit programme que tu trouves. Je crois même que ça existe en appli maintenant, mais sur l'ordi. Donc, tu vois, si tu le laisses courir, par exemple, ou donc avec ton appli. Et c'est un gong, comme une cloche, c'est comme dans les retraites de méditation, qui sonne de manière aléatoire. Donc, tu ne sais pas quand elle va sonner. Dès que ça sonne, tu arrêtes tout ce que tu fais. Tu écoutes le son jusqu'au bout, vraiment jusqu'au bout. Et seulement après, tu t'y remets. Ce sont des décrochages comme ça. Et c'est vrai que c'est pas
Ouais,
évident
c'est
des fois de
super.
décrocher. Hein. T'es dans ton truc, hein, t'es en suqué derrière l'ordi, des voilà, paf, petit pas de côté et t'y
Ah, t'as pas
reviens. Pas
envie.
de côté, t'y reviens. Ouais, c'est vraiment puissant
C'est super.
cet outil.
Complètement. Merci.
De rien.
Alors, ce que j'aime bien dans ton livre, c'est que justement, il y a plein d'idées sympas à faire, des petits outils d'introspection, notamment la lettre du futur. Du coup, bah, je l'ai faite, hein, je me suis dit, tiens, allez, hop, vas-y, tant qu'à faire.
Super.
Et il s'agit d'écrire une lettre à la personne que l'on sera dans un an, où on exprime nos désirs, nos envies, les projets que l'on veut voir se réaliser, hein, c'est ça.
Ouais. Alors du coup, en atelier, je t'aurais demandé de me l'envoyer et que dans un an, je te la renvoie. En fait, c'est comme ça que je fais avec les
Ah, c'est
personnes.
rigolo.
C'est-à-dire, ils écrivent. C'est que ici et maintenant, tu écris à ton moi dans un an. Donc un an s'est écoulé. Donc on est l'année prochaine. On est voilà. Et on a réalisé un certain nombre de choses. Et donc on écrit. Alors c'est aussi l'intention qui compte dans ces exercices. Ben, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte que quand tu poses des intentions comme ça, un an après, donc les gens, ils m'envoient la lettre avec une enveloppe où moi j'écrirai pour pas qu'ils reconnaissent après leur écriture. Et quand ils reçoivent ça, et je l'ai expérimenté, hein, jamais je donne un outil que j'ai pas fait moi-même, et j'étais hyper surprise par tout ce que j'avais pu écrire et ce qui s'était réalisé effectivement.
Ah, c'est rigolo. Est-ce que
Et
du coup, petite question, est-ce que c'est écrit en parlant de la personne que t'espères que tu seras et que t'espères que t'auras fait, ou est-ce que t'écris en étant la personne du futur qui dit, bah voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça,
Ben, c'est un peu les
même
deux.
si du coup
C'est
tu...
un peu les deux parce que du coup, c'est de se projeter en fait dans un an avec tout ce que tu auras réalisé. Alors, en termes de savoir-faire, enfin de choses que tu as réalisées vraiment, d'actes, mais aussi en termes de savoir-être, des évolutions personnelles, etc. Donc, c'est un peu des
Donc tu
deux. C'est
parles
une
comme si
vision
t'étais la
projectée.
personne dans un
Ouais,
an.
voilà, c'est ça.
Ok.
Ben, tu t'écris en disant Cher Léna.
Ouais, j'ai fait ci, j'ai fait ça
Voilà.
cette année,
Je suis fière
nanana,
de
mais c'est
toi
rigolo.
parce que tu as réalisé ça, etc. Enfin, ça peut être des pensées d'encouragement. Tu as, alors, par exemple, tu dis ton podcast a une grande audience, encore plus, a doublé l'audience. Tu as développé des projets de grande envergure. Tu as nourri ton cercle d'amis. Tu as pensé à, je sais pas, à bien dormir. Tu vois, ça peut être vraiment des. Et après, tu reçois dans un an.
Ouais, c'est rigolo. Et en fait, je pense que du coup, on s'en rend pas compte à quel point on avance quand même. Même si c'est des petits trucs, bah on avance dans la vie, tu vois, même si on n'a pas l'impression des fois.
Alors ça c'est hyper important, c'est-à-dire que la puissance de l'intention et de la décision. Donc si par exemple vous avez quelque chose, vous avez envie de réaliser, vous savez pas trop comment parce que ça paraît pour l'instant être un peu l'Everest, dites-vous ici et maintenant, genre truc avec vous-même, rituel avec vous-même, faut allumer une bougie, de l'encens, ce que vous voulez, je prends la décision que je suis en chemin. En fait, il faut poser dans la matière en fait l'intention, soit l'écrire, soit qu'elle sorte un peu de vous. C'est super puissant. Moi, je tiens un cahier comme ça, tu vois, j'aime bien me caler sur les lunes, les nouvelles lunes, les pleines lunes, parce que ça me parle. Et régulièrement, je regarde ce que j'ai semé comme intention et ce qui s'est passé, ce que j'ai récolté derrière. Honnêtement, c'est assez bluffant. Donc, il y a quelque chose de l'ordre aussi de ce qu'on sème, quoi.
Ouais, de s'engager
Ouais,
de cette intention et de ce
c'est ça,
pouvoir-là, hein, ouais.
exactement. Ouais.
Il y a un autre exercice aussi que j'aime bien qui s'appelle le mind mapping.
Ouais.
J'ai regardé. Alors, je ne l'ai pas fait pour le coup, mais je trouvais ça pas mal parce que tu dessines une petite bulle centrale où tu mets ton prénom, il me semble, et après tu tires des traits où tu vas mettre toutes les identités que tu penses avoir. Donc, par exemple, maman, podcasteuse, chroniqueuse, sportive, conjointe, peu importe, c'est ça.
Ouais,
Hein. Et je trouve ce qui est intéressant, c'est que tu te dis, ah ouais, en fait, j'ai plein de petites facettes. Tu vois, ça te permet d'avoir du recul sur la situation.
Ouais, alors le mind mapping, c'est penser en bulle, quoi. Donc ça tu peux t'en servir, ça, on s'en sert dans les entreprises aussi. Mais c'est vrai que nous pensons en fait en étoile. Donc on fait des to-do list. Ça, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Mais donc on ferait
Alors
mieux
c'est
de
quoi
faire des.
l'étoile, ouais?
Bah, c'est-à-dire que c'est par association. Tu as par exemple un projet qui va avoir plein d'émanations. Donc l'idée, c'est de dessiner une petite bulle. Si tu l'adaptes à un projet, par exemple ton podcast, ben, tu mets podcast. Et puis, ben, ça va donner plein de choses. Par exemple, interview à caler, interview à monter, livre à lire, ben, j'en sais rien, quoi. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, dans les bulles, on met des données de temps, de deadline, bon bref. On peut l'adapter aussi à l'identité. C'est ce que j'aime faire. C'est-à-dire, ce que tu dis, c'est le mind mapping des identités de rôle. C'est-à-dire, nous revêtons plein de rôles dans nos vies, personnelles, professionnelles. Et parfois, c'est intéressant de voir que, comme tu disais, ta podcasteuse, sportive, conjointe, etc. Parfois, il y a des identités que nous délaissons au profit d'autres. Hein. Peut-être que podcasteuse, par moment, ça prend toute la place. C'est juste bien de le savoir, de l'observer. Et de voir aussi que certaines identités peuvent venir au secours d'autres. Il y a des trucs qu'on ne sait pas faire. Par exemple, je sais pas, dans le sport ou en tant que conjointe. Et puis, la podcasteuse, elle peut aller venir à l'aide de ça. Et c'est aussi voir qu'en général, ça je le fais beaucoup avec les artistes aussi qui font beaucoup pour leur posture ben, professionnelle et d'artiste parce que c'est un peu tout mélangé pour eux. Ça permet de voir quand tu es en déséquilibre. Un artiste qui dure, c'est un artiste qui va prendre soin de sa posture personnelle. C'est pas l'artiste qui va forcément que trimer, machin. Ça c'est les grandes croyances du milieu. Mais vraiment, un artiste qui va durer, c'est un artiste qui est bien dans ses baskets, qui a conscience de ses vrais appuis, de ses qualités, parce que c'est très difficile aussi, comme dans plein d'univers, mais le jugement, voilà, quand un spectacle marche pas, quand tu te fais défoncer par la critique, des choses comme ça, c'est très dur à vivre. C'est valable aussi pour les auteurs du développement personnel, hein, ça peut être un petit peu, mais tu vois, de bien savoir où est ta base, quoi. C'est fondamental.
Complètement. Je fais une petite aparté, mais tu es bouddhiste depuis plus de 10 ans, hein. Et je me demandais en quoi cette religion t'a plu, qu'est-ce qu'elle t'apporte tous les jours?
Alors moi je dis pas religion, je dis spiritualité plutôt, mais bon c'est voilà, c'est ma façon de l'aborder. Ben, déjà c'est la question du sens, c'est-à-dire que après c'est quelque chose qui est personnel, donc quand je transmets la méditation, je ne transmets pas la méditation bouddhique, je transmets la méditation laïque en fait. Mais n'empêche que j'ai pris ce qu'on appelle les vœux de Bodhisattva, t'as plein d'étapes dans le bouddhisme. Pour moi, ce que je fais dans mon doit servir à l'autre, doit servir au bien de tous les êtres vivants. Voilà, c'est vraiment mon credo. Donc, et ça me soutient, ça m'aide, c'est-à-dire que j'ai vraiment conscience du colibri, de la contribution, et que j'essaye que ces choses soient en tout cas animées, que je sois en conférence, que je sois en consulte, que je sois avec ma fille, avec mon conjoint, que ce soit animé de ça. Dis tendre, hein, parce que je dis pas que je suis parfaite, loin de là, ou loin de là. Mais voilà, je pense que ça m'a donné la conscience de l'universalité, de l'interdépendance, c'est-à-dire qu'on n'est jamais tout seul. Et que ça, c'est important de savoir aussi, de connaître les gens qui te soutiennent. Enfin voilà, c'est très très puissant pour moi. C'est pour ça que j'aide beaucoup, en fait. Je fais beaucoup de coups de main parce que j'ai toujours conscience que nous sommes interdépendants, quoi. On n'est rien tout seul. Tu vois, faire un podcast, ça nécessite qu'il y ait plusieurs personnes, qu'il y ait des gens qui créent du matériel, des gens qui gèrent du son. Enfin, voilà, quand tu vas acheter ta baguette chez le boulanger, tu peux déjà voir l'interdépendance. Et je pense que c'est bien de s'en rappeler parce que, en tout cas, moi, c'est important pour moi parce que ça me relie aux autres. Ça me relie à plus grand et ça me relie au. Voilà. Donc.
Et puis tu as plus de gratitude du coup, parce qu'effectivement, par exemple, avant de manger, bah, tu sais que tu as des paysans qui ont cultivé tes
Ouais.
légumes, tu vois, enfin, je trouve que voilà, c'est assez intéressant, je suis d'accord avec toi.
Ouais, célébrer les choses qu'on a plutôt que celles qu'on n'a pas. Je pense que ça, c'est une vraie clé aussi. Ouais.
Ah bah justement,
Ouais.
c'est la prochaine question que j'avais, puisque je trouve qu'effectivement, on a quand même tendance, tu vois, et je le vois quand par exemple tout va bien, on part, oui, c'était bien, voilà, ça y est, c'est fini, et par contre quand ça va mal, ah oh non mais franchement lui il m'a fait chier jusque-là, et puis le chauffeur il était comme ça, et je te raconte pas l'autre jour le rendez-vous qui s'est mal passé, et tu vois, on en fait des caisses, on voit toujours finalement le négatif, hein, en tout cas la plupart des personnes, et c'est ce qu'on appelle le biais cognitif de la négativité.
Ouais, c'est ça.
Alors comment on peut s'en sortir?
Alors, en tant qu'être humain, nous avons tous un biais cognitif de négativité. Peut-être dans des proportions plus ou moins importantes, mais ça, c'est quelque chose qu'on a tous. C'est-à-dire qu'on voit plutôt les trains en retard que ceux qui arrivent à l'heure. Voilà. Donc, il nous faut, et en plus, quand il nous arrive des choses positives, on s'y habitue. Ça devient vite normal. C'est comme, par exemple, ce voyage à New York que tu attends depuis des années. Au moment où il se réalise, bah, tu es heureuse, mais presque déçue de ne pas l'être autant que tu imaginais l'être, quoi. Donc voilà, ça se recorrige. On a besoin en fait de se rappeler des choses agréables. C'est pour ça qu'il y a les pratiques en psychologie positive des trois kiffs, par exemple, se rappeler chaque jour trois petits bonheurs pour contrecarrer ce biais cognitif de négativité. Donc célébrer ce qu'on a, Ça permet de se sentir déjà riche, déjà là, déjà plein.
Ouais, et finalement, on attire un peu le meilleur finalement, parce que bah, quand on se focus sur le positif, et c'est vrai que si tu fais les trois kiffs, ou en tout cas cette pratique de gratitude quotidienne, avant de te coucher, ou quand tu viens de te lever, ou peu importe, c'est vrai que du coup, bah, tu changes un peu tes connexions neuronales et tu vas un peu plus vers le positif, et donc du coup, tu as des meilleures fréquences parce que tu as une meilleure énergie, c'est des belles énergies en
Oui,
fait.
c'est ça, c'est que quand tu dois noter tes petites choses le soir, eh ben, tu vas les repérer, en fait, tu vas les chercher dans la journée, donc tu vas être beaucoup plus attentive à tous ces petits bonheurs. Et il y en a plein, il y en a partout, il y en a tout le temps, en fait. On a de la chance, et je pense que se connecter à ça, ça fait beaucoup de bien. C'est ça qui rend heureux, en
Ouais.
fait, profondément.
Ouais, complètement. Et ce sont des choses simples. C'est pas je suis partie effectivement en vacances à Miami pendant 3 semaines. Non, c'est j'ai bu ma tasse de thé, c'était trop bon parce que voilà, j'avais froid, ça m'a réchauffé le
Ouais.
corps et ça m'a apaisé, ça m'a inspiré pour écrire mon contenu. Enfin, tu vois, des petites choses simples, je sais pas, mais c'est vrai que souvent on s'imagine que c'est que des grands trucs, mais pas du tout, au contraire. C'est des petites choses du quotidien qui nous apportent du bien,
Ouais, c'est
du
clair que
bien-être.
ouais, les petites choses mises bout à bout. C'est très rigolo parce qu'en fait, je vois ton image qui bouge très lentement alors que j'entends ta voix. C'est hyper intéressant.
Oui, c'est bizarre, mais je crois que c'est justement le logiciel que j'utilise qui va baisser la qualité exprès, mais ça ne sera pas comme ça quand ça sera diffusé.
D'accord,
Mais oui, je comprends, je
ok.
vois ce
C'est
que tu veux
hyper
dire.
intéressant.
C'est psychédélique un peu. Et c'est vrai que toi, tu aimes bien la psychologie positive, il me semble que tu l'utilises, que ça t'a aidé dans ton quotidien. Est-ce qu'il y a des petits exercices, hormis les trois kiffs, pour finir, que tu pourrais nous donner?
Ouais, il y en a pas mal, mais c'est vrai que celui-là, je l'aime bien. Alors, celui que j'aime bien aussi, parce que dans les trois kiffs, tu peux adapter et rajouter des gratitudes, puisqu'on parlait de la gratitude. J'ai eu cette chance de travailler avec Rebecca Shankland, qui est une chercheuse en psychologie positive, parce que c'est une vraie science, et qui a écrit un très beau livre sur les pouvoirs de la gratitude, où il y a plein de petites pratiques. Et dans ce livre, elle explique qu'on peut noter ses gratitudes, mais on peut aussi écrire une lettre de gratitude à quelqu'un à qui tu as envie de profondément dire merci. Alors ça peut être genre le maître que tu as eu en CE1 ou la maîtresse, tu vois, ou quelqu'un qui t'a vraiment inspiré, ou même faire une visite de gratitude, c'est-à-dire aller voir si tu peux encore, si des fois les personnes ne sont plus là malheureusement. Mais la lettre de gratitude, c'est que la personne soit encore en vie ou pas, peu importe, c'est vraiment exprimer. Et imagine en fait le bonheur que ça peut être de recevoir ce type de lettre d'une personne qui t'exprime à quel point, je sais pas, tu vois quelqu'un pour ton podcast qui va te dire, Léna, merci, qui l'écrit. Waouh, le kiff, tu vois. Et ça fait kiffer la personne qui l'a écrite aussi. Donc, je vous invite à écrire vos gratitudes, à les exprimer, à vous y entraîner.
Ouais. Mais c'est intéressant parce que je me demande si ça quand même ça dépend pas de certaines personnes, parce que ça me rappelle moi justement où il y a une personne qui avait une place importante un peu de grand frère à une époque et je lui ai écrit un message, alors c'était sur Facebook mais juste parce que j'avais besoin de le dire, tu
Ouais.
sais, je lui ai expliqué bah, que ça m'avait beaucoup aidé à cette période-là, etc. etc. et je n'ai jamais eu de réponse.
Mais c'est pas
Et
grave.
je me suis marrée toute seule, mais j'en
Ouais,
attendais pas, mais
ouais.
du coup je me suis dit... Je ne sais pas du tout ce qu'il a pensé, et c'est pas grave parce que je le lâche à l'univers. Au moins, je lui ai dit et il le sait, mais je pense que ça, effectivement, ça peut être. Tu peux être abasourdi, quoi. Peut-être tu t'y attends pas, t'es en train
Ouais.
de manger ta tartine le matin, tu vois un message comme ça sur Facebook, tu dis what the
Ouais, bien
fuck? Donc
sûr.
ça m'a fait rire, mais. Mais effectivement, c'est voilà, en attendant rien en retour. C'est ça qui est important parce que
Ouais.
sinon, ça nourrit juste l'ego, c'est stupide. Mais voilà, je trouvais ça. Ça me rappelle cette anecdote rigolote et ça m'avait fait rire sur le coup. Et puis voilà, quoi.
C'est
Mais effectivement,
l'expression
je trouve
du
que c'est
cœur à
bien.
cœur, quoi. C'est vraiment de sentir qu'en
C'est
fait,
ça.
quand notre cœur s'ouvre, c'est ça qui rend le plus heureux, en fait. Encore plus que de
Ah ouais.
recevoir presque, en fait. Aimer plus
Et ça
fort
peut
que
pas être
d'être
mauvais quand ça
aimé,
vient du
quoi.
cœur.
Oui, voilà, c'est ça.
Oui.
Et
Ouais.
ça remplit de joie d'avoir cette sensation-là et de l'offrir au monde. C'est le principe de la dédicace dans la méditation. Quand on termine une pratique, on dit qu'on en dédie les bienfaits toujours, parce que c'est important de bien comprendre et d'expérimenter que c'est pas quelque chose d'égocentrique. C'est connecté en fait à l'autre toujours. Et ça, c'est important. Et dans les ateliers, c'est quand je fais des cercles comme ça aussi à la fin, des fois avec les enfants, je le faisais avec les jeunes, quoi, d'adresser une gratitude, par exemple, au voisin de droite ou au voisin de gauche, où je faisais exprès, en plus de mélanger des gens qui peut-être s'appréciaient pas vraiment, et de l'adresser avec son corps, c'est-à-dire vraiment de se tourner vers la personne, de la regarder, de lui dire, voilà, moi, ce que j'aime chez toi, ou merci d'être comme ça, parce que c'est très inspirant, merci. Et ça crée un truc relationnel qui est incroyable.
Ah, c'est beau.
Ouais, c'est beau.
Ouais, c'est
Et là,
super.
c'est il l'expérimentait. Donc, des fois, quand j'oubliais, parce que ça m'arrivait, on n'avait pas le temps, ils étaient arrivés en retard, ou la sonnerie, machin, il y avait eu un truc. Il me dit, on fait le truc des cercles, des trucs gentils, madame. Tu vois, c'est eux qui le demandaient parce que c'était bon, quoi. Et en plus, quand tu es
Bah
un
parce que
cercle,
ouais,
tu
c'est
assistes
ça.
à tout ça, tu assistes aux gratitudes des autres et tout. Non, enfin, c'est le. le méga kiff, quoi.
Ouais. Ah, tu ressors, tu te sens bien, il y a
Ouais,
des bonnes ondes, dis
c'est
donc.
ça.
Non, c'est trop bien, je trouve ça
C'est
génial.
ça.
Je trouve ça super. Gaëlle, est-ce que tu as des choses à rajouter, des questions, voilà, des réponses à des questions que je ne t'ai pas posées. Enfin bref, si tu veux rajouter quelque chose, n'hésite pas. Et aussi, où est-ce qu'on peut te trouver, te contacter, etc., etc.
Je ne sais pas, non, on a déjà fait pas mal. Et puis après, si les personnes sont curieuses, on peut me retrouver. J'ai un site internet qui est gaëlpiton.com. Je me sers des réseaux pour aussi continuer à diffuser toutes ces énergies, tous ces exercices, toutes ces idées, ces inspirations. Voilà, je suis présente sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn aussi. Et puis voilà, peut-être de rassurer et de dire le développement personnel, c'est pas quelque chose d'inaccessible, c'est pas réservé à une élite. Ouais, peut-être que ça, c'est important pour moi. C'est tout le travail que tu as pu aussi peut-être voir dans mon livre sur la sophrologie, dans le grand guide de la sophrologie au quotidien et dans celui qui va sortir là dans le jeu que j'ai fait, un jeu de cartes. J'ai mis toutes sortes de personnes, de tous âges, de toutes couleurs de peau. J'en ai marre de voir que dans les bouquins de développement personnel, c'est pour les jeunes 25 ans blancs de peau, quoi. Tu vois, ça, c'est vraiment un truc contre quoi je lutte. C'est pour tout le monde. Donc, incarnons-le complètement. C'est vraiment pas réservé à une élite. Je trouve que c'est encore trop le cas. C'est mon avis.
Ouais.
Mais
Bah non, mais c'est bien, c'est ton petit
c'est pas
combat.
mon quotidien. Et quand on me dit, oui, mais la sophro, c'est un truc de bobo, j'aime rappeler que la sophrologie a été créée par le professeur Caicedo, qui a fait ses expérimentations dans les bidonvilles de Bogota. Voilà, donc quand on dit que c'est bobo, c'est qu'on
Bam.
n'est pas connecté. Non, mais voilà, il faut aussi
C'est qu'on
savoir d'où
connaît
ça
pas en
vient.
fait. Ouais.
C'est qu'on, voilà, ou qu'on est déconnecté de la pratique. Et ça, c'est grave.
Voilà,
Ouais.
parce qu'en plus c'est souvent un préjugé parce que
Ouais.
c'est un mécanisme de
Oui.
protection, nanana,
Oui, moi,
ouais.
on m'a dit ça à Saint-Denis. On m'a dit quand je me suis installée, mais c'est pas pour les gens d'ici. Voilà. Ça, c'était les trucs que
Ouais.
j'entendais. Eh bien, si c'est pour les gens des quartiers, eh bien, si c'est pour les gens qui pensent que c'est pas pour eux, d'ailleurs. Parfois, je dis, ah non, moi, je peux pas méditer, c'est pas mon truc. Il faut essayer, en fait. Si c'est pas votre truc, d'accord, mais essayez d'abord. On peut pas dire que c'est
Ouais,
pas
ouais.
notre truc si on n'essaye pas. Et ça, avec les élèves, ça a été vraiment le premier choix en conscience. Tu peux juste donner ton avis si tu as essayé, expérimenté ce que c'est. Voilà, après libre à toi. Mais
Une belle règle.
bah ouais.
Tellement vrai.
Mais je t'assure que bon, c'est pas toujours voilà,
Facile.
même parfois c'est alors il y a des médecins par exemple qui ont très conscience de la complémentarité avec les sophrologues et c'est super, il y en a d'autres où ils pensent qu'on est des gourous des trucs. Je me dis c'est dommage, expérimentons les uns les autres et voyons avant de d'avoir des croyances comme ça toutes faites, c'est dommage.
Bien sûr.
Expérience.
Oh oui. Merci beaucoup,
Ah, merci à
Gaëlle.
toi, Léna. J'étais ravie d'échanger avec toi et bravo pour ton travail, tout ce que tu diffuses. C'est super, vraiment.
Merci beaucoup.